Alors, bonjour à tous. Il y a des églises qu'on préfère plus que d'autres. Hein? Donc, vous êtes parmi celles que j'aime bien, quoi. Je me sens à l'aise quand je viens ici, je me sens à la maison. Et merci, Seigneur, pour cela, quoi. C'est important. C'est important qu'on trouve des affinités à travers le culte. Et c'est vrai que vous êtes vraiment chers à mon cœur. Donc, voilà. C'est ce que je voulais vous partager ce matin. Merci pour la présidence. Merci pour les cantiques, les choix de cantiques. Alors, si vous avez vu que je parlais souvent avec mon épouse, c'était pour qu'on note les numéros de cantiques, les titres, qu'elle les marque. Et voilà, quoi. J'aime bien les écouter à la maison. Quand je reviens à la maison, j'aime bien les réécouter. Ça me rappelle aussi les églises où j'étais pasteur, et ainsi de suite, où on chantait ces cantiques. Alors, c'est merveilleux, quoi. Nous, on vieillit, mais les cantiques qu'on chante ne vieillissent pas. Amen. Amen. Oh, c'est pas fort, ça. Amen. Ah! Jésus est ressuscité?
Amen.
Ah, magnifique. Eh bien, ce matin, lorsque nous allons regarder un passage dans l'Évangile de Jean, au chapitre 2, un passage qui est connu, hein, c'est les noces de Cana. Et souvent, quand on entend prêcher sur les noces de Cana, on entend parler surtout que Jésus a changé l'eau en vin. Mais il y a une phrase très, très importante, une déclaration très importante qui est affirmée dans le chapitre 2, qui souvent nous glisse sous le nez et qui pourtant est une des... que si on s'appropriait cette phrase-là dans nos vies, eh bien, on verrait Dieu accomplir des miracles à chaque jour dans nos vies. Alors, je suis en train de vous surprendre, hein? Oh! Et vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de mots dans cette phrase-là, c'est pas long, c'est pas Jésus qui va la prononcer. Mais si on la met en pratique, cette phrase-là, eh bien, on ouvre les écluses des cieux pour que Dieu puisse nous bénir, puisse nous faire grandir, puisse nous fortifier et manifester sa gloire à travers vous et à travers nous, à travers vous et à travers moi. Voilà. Alors, lorsque nous examinons la vie de Jésus, nous pouvons affirmer que c'est quelqu'un qui a quand même accompli beaucoup de miracles. Jean dit au chapitre 21, verset 25, « Si on écrivait en détail tout ce que Jésus a fait, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. » Vous vous imaginez? Alors, pourquoi qu'on n'a pas tous ces livres? Pourquoi qu'on n'a pas tous les miracles que Jésus a accompli? Bien, d'abord, Jean nous le dit, le monde entier ne pourrait pas contenir tous les livres qui détailleraient tous les miracles que Jésus a fait. Alors, Dieu, par son esprit, a utilisé des hommes qui ont transcrit 4 évangiles. Il a utilisé Paul aussi, il a utilisé Jacques, il a utilisé Jean à la fin. Pourquoi? Il a gardé les miracles qui étaient importants pour notre vie spirituelle, pour notre accroissement spirituel. Et c'est important qu'on retienne ça. Alors, ce matin, parmi tous les miracles que Jésus a fait, comme je vous ai dit, j'aimerais examiner le premier des miracles que Jésus a accompli à Cana, en Galilée, et voir quelles sont les questions que ce miracle pourrait susciter en vous et en moi. Même si ce miracle peut sembler très ordinaire aux yeux de certains, c'est probablement le miracle le plus pratique que Jésus ait jamais accompli, car il nous rappelle que Jésus a dû accomplir ce miracle parce qu'à un moment donné, il ne restait plus de vin. Il avait été invité dans un mariage, et pendant les noces, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il n'y a plus de vin. Et bien aimé, ce que nous apprêtons à voir dans ce mariage, c'est que ce mariage est un peu une image de ma vie et de la vôtre. C'est-à-dire que tout mariage finit par manquer de vin. Alors, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire par là, qu'un mariage peut manquer de vin? Ce que je veux dire, c'est qu'il va arriver à un moment donné dans votre vie, comme il m'est déjà arrivé dans la mienne, où vous allez vous retrouver à court d'idées parce que vous allez faire face à un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Dit autrement, vous allez vous retrouver au beau milieu d'une situation de crise que vous ne pourrez pas gérer. Vous aurez l'impression d'être tombé dans un trou et au point où que vous êtes incapable de vous en sortir par vous-même. Et si vous vous sentez concerné ce matin par ce que je viens de dire, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce que nous allons apprendre à travers ce miracle ce matin que Jésus a accompli, c'est que nos problèmes ou toute situation que nous vivons, qui nous paraît sans issue, vont donner la plupart du temps la possibilité à Dieu de manifester sa puissance, manifester sa gloire dans nos vies. Bien aimé, quand vous êtes malade puis vous êtes guéri, ben, c'est quand même un miracle. Hein? Parce que la médecine, elle ne guérit pas. Hein? La médecine, elle soulage. Mais la médecine ne guérit pas. Quand on a un problème de cœur et on fait des pontages, on ne vous a pas guéri, on a soulagé votre mal, on l'a dévié votre mal. Guérir, c'est que tout serait correct comme avant, comme quand vous êtes venu au monde. Ça, c'est un miracle. Et moi, quand j'ai eu mon cancer, c'était bien parce que j'ai pu amener l'oncologue au Seigneur, celui qui me traitait, et il avait compris une chose après ça. Quand j'étais assis là, il y avait une consultation, et juste au-dessus de son bureau, c'était marqué « La médecine soulage, mais Dieu guérit. » Et j'avais dit « Écoute, Robert, tu n'as pas peur d'avoir des problèmes avec ça, parce qu'il était le responsable du service d'oncologie. » J'ai dit, t'as pas peur d'avoir des problèmes avec les autorités de l'hôpital avec ça. Il m'a dit, bien, écoute bien, à travers toutes les imbécilités que je vois dans les autres bureaux, si on ose me demander d'enlever ça, je vais brasser la cage ici dans l'hôpital. Et c'est vrai, bien-aimé, la médecine, elle soulage, mais Dieu guérit. Et Dieu guérissait dans le passé, et il guérit encore aujourd'hui. Vous êtes amen à ça. Amen, hein? Oui, on a un Dieu qui est toujours actif, hein? Toujours, toujours actif. Moi, je vais prendre un temps pour prier. Je sais que j'avais prié, mon frère a prié pour moi tantôt, mais moi, j'ai besoin de prier pour un petit peu, là, faire en sorte que le Saint-Esprit puisse prendre toute la place qui revienne. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce encore ce matin pour ce culte. Merci, Seigneur, parce que tu es présent dans ce lieu ce matin. Et Seigneur, personne n'est ici. Tu ne s'est déplacé pour rien. Tu as une parole en réserve pour chaque personne ici présente ce matin. Tu connais nos problèmes, tu connais nos soucis, tu connais nos tracas, tu connais nos joies, nos peines. Et Seigneur, tu veux que, en tant que Seigneur et Sauveur de nos vies, eh bien, manifester ta puissance et ta présence dans le cœur de chaque personne ici présente ce matin. Seigneur, je te prie, je te demande que l'homme puisse s'effacer ce matin derrière cette chair et que tu y prennes toute la place, afin que ce ne soit pas l'homme qui prêche, mais ce soit ton esprit qui parle à ton Église ce matin. Que toute la gloire te revienne. Et c'est en Jésus que je t'ai prié. Et le peuple de Dieu dit, amen. Ce miracle au chapitre 2, bien-aimé, aussi insignifiant qu'il puisse paraître pour certains, nous donne un des enseignements les plus profonds sur ce que nous devons faire lorsque nous sommes rendus au bout du rouleau. Parce que nous vivons une situation difficile et que nous ne voyons pas de porte de sortie. Je tiens à vous rappeler, bien-aimés, que vous allez vivre suffisamment longtemps ou à certains moments dans votre vie, vous aurez à faire face à des problèmes que vous ne pourrez pas résoudre, et à des crises que vous ne pourrez pas toujours gérer. Et quand cela arrive, car personne n'est épargné par les épreuves, eh bien, j'espère que vous allez vous souvenir de ce qui s'est passé aux noces de Cana. Que vous allez retenir ce que je vais vous dire ce matin. Pas dans toute sa globalité, mais ce que vous avez besoin, parce que Dieu sait ce que vous avez besoin de retenir ce matin. Et pour cela, non seulement vous devez avoir vos oreilles ouvertes, mais vous devez avoir aussi les oreilles de votre cœur ouvertes pour que le Saint-Esprit puisse faire le travail qu'il a besoin de faire dans vos vies. Il y a peut-être des cœurs qui sont en jachère ce matin ici dans ce lieu. Dieu veut peut-être pénétrer dans vos cœurs ce matin pour labourer vos cœurs, afin que finalement, eh bien, que vous puissiez porter du fruit. Et pas seulement du fruit, mais du fruit en abondance. Vous dites amen à ça. Ce que nous retenons lorsque nous lisons le chapitre 2 de l'Évangile de Jean, c'est qu'à cette Cana, en Galilée, que Jésus a fait le premier miracle, son premier miracle en changeant l'eau en vin. Pourtant, si nous prenons le temps d'étudier le texte un peu plus en profondeur, il y a une chose ô combien importante qui se trouve dans ce texte qui pourrait changer non seulement votre vie et la mienne à tout jamais, mais qui nous permettrait de voir agir constamment Dieu de façon miraculeuse dans nos propres vies. Je vais probablement le répéter à quelques reprises, mais c'est important. C'est important, bien-aimé. Est-ce que vous croyez encore au miracle aujourd'hui? Bien, le fait que vous êtes assis là, bien-aimé, vous êtes déjà un miracle. Vous êtes déjà la manifestation que Dieu a fait un miracle. Parce que si vous vous écouteriez, si vous aviez jamais entendu parler de Jésus, si vous l'aviez jamais accepté, vous passeriez devant l'Église ici, vous direz, quelle bande de tatacs, hein? Quelle bande de tarés, quoi. C'est une secte, oui. Mais Dieu a fait un miracle dans vos vies. Et il vous a permis, à travers votre conversion, à travers votre nouvelle naissance, de voir l'Église comme lui voit l'Église. Et il a payé un grand prix pour qu'on puisse aujourd'hui appeler ce lieu une Église bien-aimée. Parce que vous êtes le corps de Christ. Et à travers son corps, à travers les différents membres que vous représentez, Dieu veut accomplir des miracles à travers vous. Est-ce que vous y croyez à ça, bien-aimés? Moi, je suis un miracle en avant. Vous êtes des miracles, bien-aimés. Marie, la mère de Jésus, va faire quelque chose de très simple ici. Pourtant, ce qu'elle a fait fonctionne à chaque fois que vous traversez une crise et que vous ne trouvez pas le moyen de vous en sortir. À chaque fois que vous trouvez une crise et que vous ne trouvez pas le moyen de vous en sortir, si vous opérez, si vous agissez comme Marie agit, vous verrez Dieu faire un miracle dans votre vie. Mais il y a des conditions. Est-ce que votre vie est en règle avec le Seigneur ce matin? Est-ce que vous marchez sur ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle? Est-ce que Dieu, Jean-Jésus-Christ, occupe la première place dans votre vie, bien-aimé? Parce que chez Marie, c'était ça. Elle mettait en pratique la parole de Dieu. Elle vivait comme Dieu lui demandait de vivre. Et Dieu va l'utiliser pour nous laisser une phrase qui devrait vous amener à vivre des miracles au quotidien avec le Seigneur. Et j'insiste pour dire que cela fonctionne à chaque fois que vous avez un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Regardons dans un premier temps ce qu'elle a fait, ce qu'il nous enseigne ici. Regardons le chapitre 2, les versets 1 à 3. Trois jours après que Jésus eut rencontré Nathanaël, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin ». Bien-aimés, lorsque vous faites face à un problème, la première chose à faire, c'est de faire exactement ce que Marie a fait, c'est de vous tourner vers Jésus. Elle s'est tournée vers Jésus, c'est pas compliqué, hein? Elle s'est tournée vers Jésus, c'est un enseignement de base. Elle s'est tournée vers Jésus, c'est la première étape. Je suis convaincu que l'attention de Marie n'a pas augmenté et ne s'est pas arraché les cheveux en apprenant qu'il n'y avait plus de vin. Qu'est-ce qu'elle a fait? Le texte biblique nous dit, elle s'est tournée simplement vers Jésus en disant, « Fils, nous avons un problème, il n'y a plus de vin. » Et on doit arriver devant le Seigneur aussi simplement qu'elle a fait devant son Fils quand on est en prière. Vous savez, j'entends des prières des fois, je me demande même si Dieu réussit à toutes les comprendre tellement que c'est compliqué des fois. Le Seigneur, il veut, mais il sait déjà d'avance que ce qu'on va lui dire, bien-aimé. Il le sait déjà d'avance. Ce qu'il veut, c'est, dans la relation intime et étroite qu'il a avec nous, il prend plaisir à entendre ses enfants pouvoir prier. C'est important, sinon on n'a pas besoin de prier. On a juste à dire, on se met à genoux, on se dit, Seigneur, bon, ben, écoute, tu lis dans mon cœur, tout ce que j'avais à dire, tu le sais, c'est terminé, quoi, je commence ma journée. Non, la relation avec le Seigneur. C'est important, bien-aimé. C'est important. Et si l'Église est aussi faible aujourd'hui, hein, c'est parce que, un, bien-aimé, on ne vit pas cette relation souvent intime avec le Seigneur. Jésus n'occupe pas nécessairement la première place dans nos vies. Bien-aimé, il y a encore le mondial, c'est vrai. Moi, je ne suis pas un amateur de foot, je suis un amateur de hockey. Mais bien-aimé, il y a des chrétiens dans nos églises qui ont de la difficulté à entendre une prédication pendant 40 minutes. Mais qui sont capables de se taper deux parties de foot en ligne. Deux parties de foot en ligne, ça, ils ne sont pas fatigués, ça ne les dérange pas. Je ne juge pas personne. Ça fait juste me dire où sont leurs priorités, bien-aimés. Où sont leurs priorités? Il faut arrêter d'agir en hypocrite. Hein? Ça t'épuise d'écouter 40 minutes de prédication, c'est la parole de Dieu. Et pour deux matchs de foot, tu serais même capable d'en écouter un troisième. Je ne te juge pas, mon frère. Mais ça serait peut-être bon que tu revises tes priorités. Et on a besoin de reviser nos priorités. Il y a des chrétiens qui sont capables de vous donner la liste de tous les joueurs de foot. Bon, je suis à Liège, moi, c'est le standard de Liège. Ici, est-ce qu'il y a une équipe ici dans la région? Charleroi. Mais demandez-leur de vous nommer les 12 apôtres. Ça ne ment pas nos priorités, bien-aimés. Et nos enfants sont témoins des priorités, de nos priorités dans nos vies, bien-aimés. Marie est un exemple pour nous. Je ne suis pas en train de partir une nouvelle théologie sur Marie, mais Marie, la mère de Jésus, est un exemple pour nous. Sa priorité, c'était son fils. Non seulement elle l'avait mis au monde, mais elle savait ce qu'elle deviendrait de lui, et elle gardait les yeux fixés sur lui, comme nous devrions garder nos yeux fixés sur celui qui s'est fait homme en Jésus-Christ. Je sais que la démarche de Marie peut sembler simpliste et enfantin pour certains, mais bien-aimés, puis-je vous parler à cœur ouvert? Ce qu'elle a fait, bien-aimés, c'est ce que nous ne faisons pas normalement. Bien-aimés, vous savez ce que nous faisons normalement lorsque nous sommes confrontés à un problème que nous ne pouvons pas gérer? Nous nous tournons vers tout le monde, sauf vers Jésus. Vous dites « Amen » à ça? Moi, je vais lever ma main. Hein?
Ouais.
Nous appelons le pasteur ou l'ancien, le thérapeute ou le médecin, un avocat ou un conseiller matrimonial, un psychologue ou un psychiatre, notre mère ou notre père, notre beau-père, notre belle-mère, ou notre mari, notre femme ou encore notre voisin. Nous avons tendance à nous tourner vers tout le monde avant de nous tourner vers Jésus. Bien-aimés, il y a un enseignement important à saisir ici. Dieu veut vous entendre parler de chacun des problèmes que vous vivez, bien-aimés, parce que Dieu a la solution à chacun de vos problèmes. Vous dites « Amen » à ça. Dieu a la solution à chacun de vos problèmes. Il y en a peut-être parmi vous qui se disent en ce moment, « Je sais que Dieu connaît chacun de mes problèmes qui surviennent dans ma vie, mais il a plus à faire que de m'écouter. » Bien-aimés, notre Dieu est un Dieu tellement compatissant, tendre et aimant, que même s'il sait déjà quel problème vous vivez, eh bien, il veut que vous preniez un temps avec lui pour lui parler de votre problème, comme Marie l'a fait ici. Elle met en pratique un enseignement du psalmiste qui, dans les moments difficiles, a dit, « Je me suis adressé au Seigneur, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes craintes. » Bien-aimés, pour être délivré de toutes vos craintes, ce n'est pas d'aller voir Pierre-Jean-Jacques, c'est d'aller voir le Seigneur, le psalmiste le dit lui-même. Et il m'a délivré, je me suis adressé au Seigneur, il m'a délivré de toutes mes craintes. Bien-aimés, comment Dieu s'adresse à vous aujourd'hui à travers sa parole? Notre problème, c'est qu'on ne lit pas la parole, mais ou presque pas. On va chercher une petite méditation le matin sur un site que je nommerai pas, puis on pense que notre journée est faite, bien-aimés. Ah non, hein? C'est pas ça, hein? Lire la parole, méditer la parole. Je suis en train de vous parler, là, mais je me prêche à moi aussi. Hein. Il y a des choses que je n'aurais pas marquées dans mon message ce matin. Je voulais effacer ça à un moment donné. Et j'ai entendu une petite voix qui m'a dit, « Non, ça, mets ça là parce que c'est pour toi. » Et moi, je vais être honnête avec vous, bien-aimés. Moi, je ne suis pas capable de prêcher en avant ce que je ne mets pas en pratique. Moi, je ne suis pas un donneur de leçons. Tout ce que je peux vous enseigner ce matin, c'est ce que je vis, moi. C'est ce que je mets en application chaque jour. Le donneur de leçons, ça n'a pas aucune implication dans la vie des chrétiens. Par contre, on le sent quand quelqu'un vit ce qu'il est en train de prêcher. On le sent quand il a expérimenté ce qu'il est en train de prêcher. Et le Saint-Esprit, c'est à travers ça qu'il travaille. N'importe qui est capable de donner des leçons. Hein? N'importe qui. Moi, je ne suis pas un donneur de leçons, loin de là. Je parle avec mon cœur, et ceux qui n'aiment pas, ben, ils ne m'invitent pas. C'est tout. Je le prends comme ça. Et moi, je sais une chose, je connais vos cœurs, je connais aussi ce que vous êtes capable d'entendre, et Dieu me parle, moi, en me disant, cette église-là, tu peux parler à cœur ouvert avec ces gens-là. Je connais les membres du conseil, j'ai eu des bons contacts avec Benoît, des bons contacts avec Gino, avec les autres aussi, et je sais, le Seigneur me parle, et je sais ce que vous avez besoin, bien-aimé. Je sais ce que j'ai besoin. Et à travers ce que je vous parle, Dieu répond aussi à mes besoins, moi. Le premier qui a besoin d'être enseigné, c'est bien celui qui prêche en avant, n'est-ce pas? Lorsque vous ne savez plus où donner de la tête parce que vous vivez un problème qui vous pompe toute votre énergie, la première chose à faire, c'est de faire exactement ce que Marie a fait. Vous vous tournez vers Jésus. Une fois maintenant que vous êtes tourné vers Jésus, la deuxième chose à faire, c'est qu'il y a, et ce qu'il y a de plus logique à faire, c'est faire ce que Marie a fait, parler de votre problème à Jésus, en lui faisant savoir, juste savoir ce qui se passe. C'est exactement ce qu'elle va faire ici. Elle s'aperçoit qu'il n'y a plus de vin, ben elle va pas voir l'autre des noces pour le mettre mal à l'aise. C'est les serviteurs qui sont venus lui dire qu'il n'y avait plus de vin. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voir d'abord son fils, et deuxièmement, elle, après ça, elle lui parle du problème parce qu'elle sait que lui, il a la solution à son problème. Et bien aimé, encore une fois, je le répète, Jésus, en Jésus-Christ, Jésus a la solution à vos problèmes. Il a la solution à tous mes problèmes aussi. Et pourquoi on doit aller voir Jésus? Parce que Dieu désire ardemment manifester sa gloire à travers vous, bien aimé. Savez-vous ce que c'est la gloire de Dieu? C'est trois choses. Dans l'Ancien Testament, quand le Seigneur descendait dans la tente de la rencontre, il était écrit tout de suite après, Dieu manifesta sa gloire, c'est-à-dire sa présence. Personne n'entrait, Dieu était présent. Premièrement, la présence de Dieu. Deuxièmement, aux noces de Cana, la puissance de Dieu, Dieu accomplit des miracles. Et on va le voir tantôt au dernier verset. C'est ainsi que Jésus manifesta pour la première fois la gloire de Dieu en changeant l'eau en vin. La gloire de Dieu, il a manifesté des miracles. Il a fait un miracle. Il a montré comment Dieu était puissant, bien-aimé. Et Dieu veut manifester sa puissance à travers vous. Il ne vous demande pas d'avoir une grosse dose de foi pour y croire. Une petite dose de foi, bien-aimé. Dieu peut accomplir des choses où vous allez être renversés. La prière qu'on devrait faire le matin, c'est « Dieu, viens au secours de mon incrédulité. » Moi, je commence avec ça. Comme le pauvre père, là, que son fils avait des mauvais esprits en lui, puis qui crie « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Ça veut dire quoi en bon français? « Augmente la mesure de ma foi, Seigneur. » C'est vrai qu'on en a besoin d'augmenter notre mesure de la foi dans le monde dans lequel on vit. Écoutez à nouveau ce que Marie dit à Jésus au verset 3. À un moment donné, il ne resta plus de vin. La mère de Jésus lui dit alors, ils n'ont plus de vin. Alors pourquoi s'est-elle adressée à lui? Jésus n'était quand même pas un expert en vin, bien aimé. Hein? Vous êtes d'accord avec ça? Jésus, je ne sais pas s'il se connaissait beaucoup en vin, mais ce n'était pas un expert en vin. Logiquement, elle aurait dû aller voir quelqu'un qui connaissait le vin, qui était un expert en vin, lui dire, écoute, essaie de nous amener la même qualité. Non, elle va voir celui qu'elle savait qu'il y avait la solution pour elle. Pensez-vous que lorsqu'elle a dit à Jésus qu'il n'y avait plus de vin, Jésus a été pris au dépourvu parce qu'elle ne savait plus qu'elle avait dit qu'il n'y avait plus de vin? Absolument pas. Bien-aimé, Jésus savait déjà d'avance. Jésus, c'est Dieu fait homme. Mais je suis convaincu qu'il a pris plaisir de voir sa mère venir le trouver, bien-aimé. Je suis convaincu. Comme il prend plaisir à chaque fois que vous venez le trouver pour y partager un problème. Vous n'êtes quand même pas le premier qui va vivre un problème de couple, hein? Il ne faut pas gêner pour aller voir le Seigneur. Il ne faut pas gêner pour regarder dans sa parole les solutions qu'il nous donne. Il y en a qui ont peut-être un gros problème de boisson. Vous n'êtes pas le premier qui a un problème de boisson. Le Seigneur va vous montrer à travers sa parole que vous pouvez être délivré. Pas contrôler votre problème, être délivré de votre problème. Parce qu'en Jésus-Christ, la liberté vous rendra la vérité vous rendra libre. Les nouveaux cantiques n'en parlent pas tellement, mais dans les vieux cantiques, on parle de libérer. Libérer, bien-aimé. Et ça, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Moi, j'étais un pervers pour les gens, j'étais pas sauvable, bien-aimé. Et tout dans quoi je baignais, et tout dans ce que j'étais esclave, Dieu m'a libéré en Jésus-Christ. Libéré. L'ancien Jacques Hudon, il est mort. Vous avez devant vous un nouveau Jacques Hudon. Moi, j'ai 37 ans. Je n'ai pas 73, j'en ai 37 parce que ça fait 37 ans que j'ai été sauvé par la grâce de Dieu. À la croix, bien-aimé, le miracle, c'est un échange qui se passe à la croix. Et c'est ça la force, et c'est ça la force de la nouvelle naissance. À la croix, Jésus nous a libérés de la puissance que le monde exerçait dans vos vies. À la croix, Jésus vous a libéré de la puissance que le diable exerçait dans vos vies. À la croix, Jésus vous a libéré de la puissance que le péché exerçait dans vos vies. À la croix, Jésus vous a libéré de la puissance que la mort, parce que le chrétien ne meurt jamais. Comme Paul dit dans Corinthiens, le chrétien s'endort parce qu'il va, à un moment donné, revivre, il va être ressuscité. Ça, ce sont les bénédictions immédiates de la nouvelle naissance, bien-aimé. Moi, je ne peux pas vous détester, c'est impossible. Même si je me forcerais à vous détester, je suis incapable, puisque j'ai reçu l'Esprit de Jésus en moi. Et si j'ai reçu l'Esprit de Jésus en moi, Jésus n'a jamais détesté personne, à part que le mal. C'est la seule chose que Dieu nous demande, hein, détester le mal. Et c'est souvent le plus difficile, hein, pour nous. Moi, je ne suis pas capable d'ouvrir mes bouches pour saler votre réputation, parce que c'est à travers ma bouche que le Seigneur Jésus parle, à cause de ma nouvelle naissance, bien-aimé. Et mes mains, eh bien, j'ai hérité des mains de Jésus en naissant de nouveau, et mes mains sont là pour servir mon prochain, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, qu'il en valent la peine, qu'il en valent pas la peine aux yeux des gens. Mes mains sont là pour servir dorénavant mon prochain. Parce que je suis né de nouveau. Parce que dans ma chair, mes mains, c'est pour me servir des autres. Et non pas pour servir les autres. En Jésus-Christ, c'est pour servir. Ça, c'est le miracle de la nouvelle naissance, bien-aimé. Alors, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous expliquer pourquoi, à première vue, le fait qu'il n'y avait plus de vin ne semblait pas être un gros problème à résoudre, alors que c'était vraiment un très, très gros problème qui devait être réglé très rapidement. Pour nous, ce n'est pas un problème. On manque de vin, on va chez le dépanneur, on va chez Carrefour, les supermarchés, tous les endroits, et on va chercher des bouteilles de vin. Mais à cette époque-là, les centres d'achat, les centres commerciaux, ça n'existait pas. Donc, on devait se débrouiller autrement. Et il faut se rappeler ici, en tout cas, rentrer dans le contexte, je vais prendre 5 minutes rapidement, 5 minutes. Il faut se rappeler que chez les Juifs, un mariage était l'événement social le plus important inscrit dans le calendrier annuel. Si vous étiez invité à un mariage, vous étiez mieux de le noter sur votre agenda pour ne pas vous tromper de date, parce que c'était considéré comme étant un acte criminel grave de ne pas assister à un mariage si vous aviez été invité. Je le répète, il n'y avait pas d'événement social plus important dans le calendrier juif qu'un mariage. Je ne parle pas d'un événement religieux, mais d'un événement social. Permettez-moi de vous donner un aperçu sur la façon dont se déroulait généralement un mariage juif. La cérémonie, elle commençait juste avant le coucher du soleil, donc ça veut dire que la nuit va être longue. Hein? Ça commence juste avant le coucher du soleil et se déroulait dans une synagogue. Les futurs mariés prononçaient leurs vœux. Ils étaient déclarés mariés, puis tout le monde quittait la synagogue pour traverser la ville qui était éclairée par des bougies allumées par les invités. Même les personnes qui n'étaient pas invitées au mariage, lorsqu'elles entendaient le bruit que faisait le cortège, elles sortaient de leur maison en faisant de grands gestes, en lançant des fleurs et en laissant entendre de grands cris. Vous pouviez même entendre des gens prier Dieu d'accorder sa bénédiction sur les nouveaux mariés et sur leur progéniture. Pour les Juifs, c'était quelque chose d'énorme d'être invité et de participer à toutes les étapes de cet événement. Quand ils arrivaient au même endroit où la fête allait avoir lieu, le couple ne partait pas en lune de miel, car leur lune de miel commençait déjà à partir de la réception de mariage, qui pouvait parfois durer 3, 4, voire même 5 jours. Chaque invité faisait un discours et remettait à tour de rôle un cadeau aux nouveaux mariés, et les parents des nouveaux mariés honoraient tous les invités en leur garantissant une table bien garnie et du bon vin à boire. Car s'il y avait une chose que les parents des nouveaux mariés devaient s'assurer, c'était d'honorer que tous les invités auraient une table bien garnie. En d'autres mots, les serviteurs de service ce jour-là devaient s'assurer que l'assiette de tous les invités se serait bien remplie de nourriture, pardon, et qu'il ne manquerait pas de vin. Car si la nourriture et le vin venaient à manquer, c'était considéré comme étant une énorme insulte faite à l'égard des invités. Bien-aimé, l'hospitalité lors d'un mariage était considérée comme un devoir social tellement sacré que si l'hôte ou l'hôtesse de ce mariage venait à manquer de nourriture ou de vin, écoutez bien, ils pouvaient être poursuivis pour avoir négligé d'exercer leur devoir d'hospitalité envers les invités. La situation était donc grave. Marie avait vu Elle avait vu la situation. Il n'y a plus de vin, donc c'est une situation très grave. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Et c'est la raison pour laquelle elle va aller trouver Jésus, parce qu'elle savait que c'était le seul qui pouvait intervenir pour régler le problème. Et j'aimerais bien continuer, mais je ne peux pas ignorer la réponse donnée à Jésus, à sa mère. Suite à l'intervention de sa mère, Jésus va dire au verset 4, « Mère, est-ce à toi de me dire ce que j'ai à faire? » Ça a été interprété de différentes façons. Je ne suis pas ici pour faire les égèses de ce texte-là ce matin. Mais autrement dit, ce qu'il est en train de lui dire, « Écoute bien, maman, qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Si vous comprenez bien ce que Jésus a voulu dire à sa mère, pardon, en lui répondant de cette façon, c'est ceci. « Mère, tu as juste besoin de comprendre que ce n'est pas encore le moment pour moi de révéler qui je suis. » Autrement dit, ce n'est pas le moment pour moi, je révèle que je suis le Messie, que je suis vraiment le Fils de Dieu. Elle s'était non seulement tournée vers Jésus pour obtenir de l'aide, mais elle avait pris le temps de parler à Jésus du problème, de son problème. Si vous comprenez bien la situation dans son ensemble, Jésus n'a pas cherché à se montrer plus intelligent que sa mère, ni à lui manquer de respect en lui répondant de cette façon, parce qu'elle n'avait pas fait exactement la bonne chose, parce qu'elle avait fait exactement la bonne chose qu'elle devait faire, c'est-à-dire d'aller le trouver. Elle s'était tournée vers Jésus pour obtenir de l'aide et elle lui avait fait connaître quel était le problème. Pour quelle raison Jésus a-t-il fait son premier miracle à Cana? Pourquoi a-t-il décidé d'accomplir ce miracle à Cana? L'a-t-il fait pour impressionner les gens? Non. L'a-t-il fait parce qu'il se sentait obligé de le faire? Absolument pas. Est-ce que sa réputation était en jeu? Non. Avait-il peur d'être poursuivi? Non. L'a-t-il fait pour prouver qu'il était vraiment le Fils de Dieu? Absolument pas. Et quand vous lisez la façon dont il est pris pour accomplir ce miracle, il n'y a qu'une seule raison qui explique pourquoi Jésus a accompli ce miracle ce jour-là. Son souci pour les gens bien-aimés. Son souci pour les gens. Ce qui comptait pour sa mère comptait pour lui. Ce qui préoccupait sa mère le préoccupait aussi. Il va donc accomplir ce miracle pour nous montrer qu'il se préoccupe de nos problèmes à un tel point que lorsque nous venons vers lui pour nous faire connaître un problème, bien-aimé, cela donne la possibilité à Dieu de manifester sa gloire, c'est-à-dire sa puissance et sa présence dans nos vies. Je vous ai dit tantôt que sur la croix, je vous ai dit qu'il y a trois façons que Dieu manifeste sa gloire. Premièrement, par sa puissance, deuxièmement, par sa présence, mais troisièmement, Romains chapitre 8, verset 29. À partir du moment où vous êtes sauvés, Dieu va s'appliquer à vous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui m'obéit. Tout concourt au bien de celui qui obéit à Dieu. Dieu ne peut pas se tromper. Tu es malade, il y a une raison pourquoi Dieu permet que tu es malade. Il y a une raison. Dieu veut te montrer quelque chose dans la maladie. Arrête de t'arrêter sur ta maladie. Regarde sur celui qui peut contrôler ta maladie, la gravité de ta maladie et qui peut te guérir de ta maladie. Bien aimé, on est une génération de chrétiens, on doit se le dire quand même, hein, influencés par le milieu dans lequel on vit. On a beaucoup de difficultés à se décentrer sur nous. Beaucoup. Un de mes versets préférés dans la Bible, c'est 1 Pierre 5, 7. Il est écrit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Si ce n'est pas ça, là, c'est un menteur, Dieu bien-aimé. Et moi, à 37 ans de vie chrétienne, je n'ai jamais été capable de traiter Dieu de menteur. Jamais. Quand sa promesse ne s'accomplissait pas dans ma vie, ce n'était pas Dieu le problème, c'était moi qui avais un problème. Parce qu'il n'occupait pas la première place. Bien-aimé, quand vous regardez là, le prix que ça y a coûté sur la croix, vous ne pensez pas que Dieu ne peut pas se permettre d'attendre qu'il occupe la première place dans nos vies? Pensez-vous qu'il peut s'attendre à moins, bien-aimé? Honnêtement, ce n'est pas un animal là, qui a été sacrifié ce jour-là. C'est son fils. C'est important, bien-aimé. Dieu ne peut pas. Quand on choisit un ambassadeur, un pays choisit un ambassadeur. Rapidement, un exemple. les États-Unis, on prend les Américains. Bien-aimés, quand vous regardez les exigences pour que personne soit nommé ambassadeur d'un pays, il faut qu'il soit sans reproche. Il faut qu'on n'a rien à lui reprocher depuis presque sa naissance jusqu'au moment où il a été nommé sénateur. Sans reproche. Bien-aimés, Paul dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Est-ce que Dieu peut se contenter de moins? Et dans sa grâce, ça y arrive de se contenter de moins parce qu'il ne trouve pas mieux. Bien-aimés, on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui règne sur la Belgique, là. On est en train de parler de quelqu'un qui règne sur tout l'univers. Et qui porte son regard sur vous à chaque jour. Et quand il bénit, chaque matin, quand il bénit son univers, si vous êtes né de nouveau, il voit votre nom dans la paume de sa main. En partant, quand il bénit l'univers, il vous bénit, bien-aimé. Vous avez déjà reçu les bénédictions de Dieu. Maintenant, c'est à vous de décider ce que vous allez en faire durant la journée. Ces bénédictions vont glorifier Dieu ou elles vont déshonorer Dieu. Tout dépend de notre conduite, bien-aimé. Savoir que j'ai le privilège de me présenter devant Dieu tous les jours, devant un Dieu qui se soucie non seulement de moi, mais qui se soucie de mes problèmes parce qu'il s'est engagé à prendre soin de moi, devrait chasser toute crainte de mon cœur. Toute crainte. Combien on a peur de souffrir, bien-aimé. Combien on a peur de souffrir. Vous imaginez qu'en tant qu'humain, si on a peur de souffrir, imaginez-vous en tant que chrétien maintenant. Mais on va tous se dire, bien, ça ne vaut pas la peine, hein? Allez dire ça aux chrétiens qui ont été attachés là sur les poteaux dans l'arène de Rome et puis peints de bitume, puis qu'on a foutu le feu après. Allez leur parler de voir si ça vaut la peine de souffrir pour Jésus-Christ. Ils étaient sur les poteaux, bien-aimés. Ce qui faisait le plaisir, la jouissance des païens dans l'arène, c'était d'entendre des cris d'horreur de ces gens qui étaient brûlés. Et ces chrétiens qui ont été affichés sur ces poteaux-là, qui ont été brûlés, bien-aimés, ils chantaient des louanges au Seigneur, bien-aimés. Est-ce que ça vaut la peine de souffrir pour le Seigneur? Vous pensez que le Seigneur ne se glorifiera pas même là-dessus, bien-aimés? Ben oui, hein? Je suis convaincu que leur esprit était déjà rendu au ciel, bien-aimés. Et que leur corps pouvait brûler, rôtir, fondre. Ils ne sentaient plus rien. Vous pensez que le Seigneur prend plaisir à nous voir souffrir, à permettre que nous souffrions absolument pas? Il veut nous donner un enseignement dans chaque petit détail là-dedans, bien-aimé. Vous savez ce que ça a permis, ça, le fait qu'il voit des louanges? C'était fini. Fini les martyrs à Rome. Fini. Autant pour les païens que pour les chrétiens. Fini. Alors, je peux vous dire ce matin qu'à travers ces souffrances-là, Dieu a su se glorifier parce qu'il a mis fin à des tortures qui duraient depuis des siècles, bien-aimé. Est-ce que ça vaut la peine de souffrir pour la cause de Jésus-Christ? Oui. Oui, ça vaut la peine. Vous pensez que Nelson Mandela, en Afrique, c'est pas un modèle pour nous? C'est pas un chrétien? Pour une cause, pour sa cause, il a accepté d'aller en prison pendant 25 ans sans voir personne. Est-ce que ça vaut la peine de souffrir pour la cause de Jésus-Christ? Vous êtes amen à ça ce matin? Oui. Oui. Il dit, mon enfant, ce qui te préoccupe me préoccupe si c'est sur ta liste, c'est aussi sur ma liste, si ça te dérange, ça me dérange. Voilà pourquoi nous pouvons tout apporter à Dieu parce qu'il s'est engagé à prendre soin de nous. Vous rencontrez un problème, vous êtes au bout du rouleau, vous êtes à bout de souffle, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Faire exactement ce que Marie a fait, bien-aimé. Premièrement, vous tournez vers Jésus. Deuxièmement, vous lui parlez de votre problème. C'est si simple, n'est-ce pas? Et troisièmement, vous faites confiance simplement à Jésus pour gérer le problème, bien-aimé. Vous êtes amen à ça. Si vous allez le voir, prenez le temps d'aller le voir. Si vous prenez le temps de lui parler de votre problème, bien, laissez-lui gérer votre problème. Il va vous donner la solution. Il va envoyer un frère, il va envoyer une sœur qui va venir vous parler. Et avec sagesse, elle va vous donner la solution que Dieu, le Seigneur, lui aura transmise. Souvent, on est plus pressé que le Seigneur pour régler notre problème. C'est ça aussi. À chaque temps, à chaque chose, son temps, bien-aimé. Le temps que ça dure, c'est le temps qu'on a besoin. C'est le temps qu'on a besoin d'apprendre à grandir dans le Seigneur. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais Je n'ai jamais eu de relation aussi étroite avec le Seigneur que quand j'ai eu mon cancer et qu'on m'a donné 6 mois à vivre. Je n'ai jamais eu une relation aussi étroite. Je ne veux pas avoir un autre cancer pour vivre encore cette relation-là. Mais je connaissais le Seigneur comme étant un créateur. Je le connaissais comme étant mon sauveur. Mais dans ma maladie, je l'ai connu comme étant mon père. Si je vous demandais qu'est-ce que ça représente pour vous ce matin, je vous avais donné des feuilles et je vous dis, écrivez-moi ce que ça représente pour vous, Dieu, en tant que père. Ce serait impressionnant de voir les réponses. Mon père, je vais vous dire comment c'était. J'ai perdu 22 kilos, moi, en 3 semaines. Il me donnait 5, comme je vous ai dit, il me donnait 6 mois à vivre. Le père, c'était dans mon lit. Et j'avais l'impression que Dieu me portait dans ses bras. Que Dieu me portait, bien-aimé. Et j'entendais la voix de Dieu qui me disait, « N'aie pas peur. N'aie pas peur. » Moi, j'avais un péché dans ma vie, c'est que je n'avais pas pardonné à quelqu'un. Et quand tu es né de nouveau, puis que tu te mets au-dessus de l'autorité de Dieu, parce que lui pardonne à tout le monde, et que toi, tu décides de ne pas pardonner à quelqu'un, bien, il te donne un bon enseignement. Hein? Moi, c'est un cancer. C'est aussi simple que ça. Et quand je me suis mis à genoux pour prier, parce que je n'ai jamais demandé à Dieu la guérison. Jamais. Moi, je disais à Dieu que ta volonté soit faite. Je me suis mis à genoux, j'ai prié un soir, j'ai entendu le Saint-Esprit qui m'a dit, l'amertume et le non-pardon, c'est comme un cancer qui ronge. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu essaies de me dire là? Si tu ne pardonnes pas, tu vas quitter cette terre dans 6 mois. Je me suis levé, j'ai allé voir la personne et j'ai demandé pardon. Quand je suis revenu, je me suis mis à genoux, bien-aimé. J'ai entendu la voix du même esprit qui m'a dit, « Je t'ai guéri. Je t'ai guéri, bien-aimé. » Le lendemain, je me suis dit, « Je ne suis pas un charismatique, moi je suis un cartésien. Le Seigneur... J'aimerais bien voir dans la parole si je n'ai pas fabulé. J'aimerais bien. Et là, je tombe sur Jean chapitre 11, si vous permettez. Jean chapitre 11. C'était ma lecture du jour. Moi, je lis 2 chapitres dans le Nouveau Testament et 2 chapitres dans l'Ancien tous les jours. Fait que, écoutez bien. Alors, on envoie quelqu'un rencontrer Jésus et quelqu'un lui dit, « Seigneur, ton ami est malade. » Lorsque Jésus a pris cette nouvelle, il dit, « La maladie de Lazare ne le fera pas mourir. Elle a pour but de montrer la puissance glorieuse de Dieu et doit servir à manifester la gloire du Fils de Dieu. » Alors, je relis, parce que je n'avais pas lu le mot « Lazare ». Écoutez bien ce que j'ai lu, moi. « La maladie de Jacques ne le fera pas mourir. Elle a pour but de montrer la puissance glorieuse de Dieu et doit servir à manifester la gloire du Fils de Dieu. » Je le relis 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et bien aimé, ça confirmait que la voix que j'avais entendue, là, ce n'était pas une hallucination, c'était vraiment le Seigneur qui m'avait parlé. Bien-aimé, et moi, à chaque fois que j'ai l'occasion de témoigner de ce miracle-là, bien, je le témoigne, parce que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Moi, je peux en témoigner. Il a fait 3, 4 autres miracles, on n'a pas le temps. Il a fait 3, 4 autres miracles. On a commencé à quelle heure ce matin, parce que je ne vais pas hypothéquer le temps. Hein? OK, bien, je vais sauter une couple de pages. Hein? Voilà. Je ne sais pas si vous faites face à un problème ce matin ou si vous vivez une crise quelconque ce matin. Je ne sais pas comment ça fait. Je ne sais pas combien d'années il vous reste à vivre, mais je peux vous dire que si vous voulez vous en sortir et vous en sortir de la façon dont vous devez vous en sortir, c'est très simple. Faites tout ce que Jésus vous dira dans sa parole. C'est le passage. Est-ce qu'on peut mettre le verset 5 de Jean? Jean chapitre 2. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Je ne sais pas c'est dans quelle version, mais dans la version grecque, c'est fait tout ce qu'il vous dira, tout. Tout, bien-aimé. Il n'y a pas de compromis avec Dieu. Dieu n'en fera pas de compromis avec nous. On ne doit pas en faire avec lui non plus. C'est pour ça qu'on a besoin de s'auto-examiner à chaque jour à travers la parole. Moi, je me lève le matin et puis je regarde, ou le soir, et puis bon, je prie le soir et le matin, et puis là, j'arrive puis je dis au Seigneur... je fais un examen de conscience dans ma journée. Et je suis obligé des fois de confesser, bien, je te demande pardon, Seigneur, parce que je n'ai même pas été à la hauteur de ce que tu m'as demandé de faire. Et c'est quoi être à la hauteur de bien, c'est d'être capable de voir les autres comme Dieu les voit. Parce qu'à un moment donné, oups, je suis devenu centré sur moi-même. Et je n'ai pas été témoignage pour le Seigneur, bien-aimé. Tu comprends que c'est difficile de prêcher ces messages-là, hein? Moi, je fais le tour des églises, hein? J'en entends des vertes et des pas mûres, hein? L'évangile à l'eau de rose, là. Ouais. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, là. Ça, c'est la grosse mode aujourd'hui, hein? La grosse mode. Ouais. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Fais ce que tu veux, Jésus t'aime. Il t'aime quand même. Ouais. Vous savez, la seule place où on a... La place où on a le plus de difficultés de parler du péché et de l'enfer, c'est dans nos églises, bien-aimés. Il y en a qui font la grimace quand vous prononcez ces deux mots-là. Il y en a qui viennent te traiter de légaliste. Si vous allez évangéliser en disant aux gens que Jésus les aime, sans parler du péché, vous parlez dans le vide. Parce qu'ils vont vous demander, bien, en quoi ils m'aiment? Ah, bien, vous allez être obligé de parler de la croix. Et si vous êtes quelqu'un qui vivait à l'eau de rose, une vie à l'eau de rose, bien, votre témoignage, il s'arrête là. Il faut parler du péché. Regardez, bien-aimé, Nouveau Testament. Regardez bien. Regardez l'épaisseur de l'Ancien et l'épaisseur du Nouveau. Les prédications dans le temps passé avaient son efficacité quand on parlait de 90% de la loi et 10% de la grâce. Aujourd'hui, c'est qu'on parle 90% de la grâce et 10% de la loi. On a inversé. L'homme a le cœur tellement dur, bien-aimé, qu'il faut lui répéter pour qu'il en vienne à comprendre qu'il est perdu dans ses péchés. Et la grâce ne perd pas sa place. On termine avec la grâce. T'es perdu, t'es foutu. T'es venu au monde avec le péché qui habite en toi. Tu n'en as rien à cirer de Dieu. Malgré tout ça, malgré ton cœur égoïste, il n'y a rien qui va empêcher Dieu de t'aimer. Et je vais te dire pourquoi. Et souvent, les gens me posent la question, pourquoi? Alors, laisse-moi t'expliquer. Je vais te parler de Jésus. Et c'est important, bien-aimé, parce que c'est à travers Jésus que Dieu exprime son amour. Inconditionnel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui mérite d'être sauvé ici dans cette salle ce matin? On mérite tous d'aller en enfer, bien-aimé. On reçoit ce qu'on ne mérite pas. Vous savez, les pharisiens, ils étaient perdus. Pourquoi? Ils connaissaient. Vous savez que pour être pharisien, il fallait connaître par cœur les 5 premiers livres dans l'Ancien Testament, le Pentateuque. Les 5. Quand vous tombez dans les nombres, ça doit être assez très, hein? Ça doit être assez fatigant. Hein? Tu te trompais, tu as recommencé à zéro, quoi. Ils connaissaient parfaitement la parole de Dieu, mais ils ne connaissaient pas le Dieu de la parole. Et il faut faire la différence ici. Je peux connaître un paquet de versets sans connaître celui qui a permis que ces versets, je puisse les lire. Je suis un religieux. Connaître la parole de Dieu par cœur peut faire de moi un religieux sans pour autant faire de moi quelqu'un qui connaît le Dieu de la parole. Si je ne suis pas passé par ma nouvelle naissance, je ne connais pas le Dieu de la parole. Regardez les guérisons que Jésus a faites, des guérisons extraordinaires. Qu'est-ce qu'on lit après? Et les pharisiens se retirèrent pour savoir comment faire mourir Jésus. Ça, c'est le religieux, ça, bien-aimé. Le jaloux. Perdaient leur place. Ça, c'est le religieux. Rentre dans l'église. Ouais, il ne m'a pas salué, lui. C'est ça, le religieux, hein? J'espère que je ne vous fais pas mal en vous disant ça. Si ce n'est pas préparé, je vous dis ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. Et je vous le dis parce que je vous aime. Parce que si je ne vous aimerais pas, je ne vous aurais pas parlé comme ça ce matin. Je sais que vous avez à cœur les âmes perdues ici. Et je vous encourage à continuer. Parce que quand on fait le tour des églises, je dois dire qu'il y a certaines églises qui sont presque en voie de disparition, bien-aimés. Moi, je trouve que c'est une église quand même en santé quand je regarde le nombre de personnes ici présentes à chaque fois que je viens. C'est une église en santé. Il y a des églises qui ont vraiment besoin de prière, qui ont besoin, ils ont vraiment besoin que leur vision sur les âmes perdues soit renouvelée. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi s'il y a tant de gens qui prétendent connaître, aimer et suivre Jésus, qui pourtant ne sont pas heureux, n'ont pas la joie du Seigneur en eux? Parce qu'ils ne font pas tout ce que Jésus leur demande de faire. C'est simple, parce qu'ils se retrouvent à l'extérieur avec ceux qui ne croient pas en Jésus. Très souvent, ils agissent exactement comme ceux de l'extérieur. Vous avez-vous déjà demandé pourquoi tous ces gens qui prétendent être des disciples de Jésus, qui témoignent que Jésus a changé leur vie, ressentent les mêmes frustrations, les mêmes peurs que les gens qui ne croient pas et ne suivent pas Jésus, parce qu'ils ne font pas tout ce que Jésus leur dit de faire dans sa parole, bien-aimés? C'est une phrase très importante, c'est un des conseils les plus importants. Parce que faire tout ce que Jésus demande de faire, c'est d'obéir à la parole, c'est de ne pas vivre une vie de compromis. Et c'est pas évident. C'est pas évident, bien-aimés. Vous savez, quand on vient au Seigneur, on ne finira pas le message, hein? Mais quand on vient au Seigneur, bien-aimés, tout le monde doit renoncer à un péché, y compris ceux qui sont nés dans l'Église. Hein? Bon, je suis d'accord qu'ils ont peut-être commis de moins graves péchés que ceux du monde. Mais le premier péché, et c'est le plus grand, c'est de renoncer dorénavant à être votre propre Dieu, à définir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est injuste, à définir ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est pour ça que Jésus dit, celui, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même. Je n'existe plus. C'est plus moi qui décide ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bon, ce qui est pas vrai, ce qui est juste ou injuste. C'est la parole. Je ne suis plus le Dieu de mon existence. C'est celui d'en haut qui devient le Dieu de mon existence. Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix, parce que tu vas être persécuté si tu vis comme Jésus te l'a demandé. Tu vas être persécuté et qu'il me suive, qu'il marche sur ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Et Dieu le Père là-haut et les anges se réjouissent de voir un enfant qui marche en vérité et en nouveauté de vie. Vous avez-vous déjà demandé où se trouve leur problème à tous ces gens? Bien, je vais rapidement vous partager ce que j'ai constaté tout au long de mon ministère pastoral. Je ne dis pas que c'est vrai pour tout le monde, mais la principale raison pour laquelle vous ne pouvez pas voir parfois beaucoup de différence entre celui qui affirme être un disciple de Jésus et la personne qui ne suit pas Jésus, c'est parce que la personne qui prétend être un disciple de Jésus ne fait pas tout ce que Jésus lui demande de faire. Combien de gens sont venus me voir en me disant « Je ne comprends pas pourquoi, pasteur, je ne vois pas de changement en moi. » Parce que voyez-vous, c'est là où la plupart d'entre nous avons un problème. Nous savons ce que Jésus veut que nous fassions et nous ne le faisons tout simplement pas. Pourtant, c'est ce même Jésus qui répète dans Jean chapitre 13, verset 17. Il va utiliser le mot « faire ». Écoutez, « Maintenant que vous savez ce que je vous ai dit de faire, vous serez heureux pourvu que vous les mettiez en pratique. » Marie a dit « Faites tout ce que Jésus vous demande de faire. » Et Jésus dit « Si vous faites ce que je vous demande de faire, vous serez heureux. » Comment savoir ce que Jésus nous dit de faire? Il faut lire sa parole. Ce n'est pas le fait de savoir ce que nous devrions faire, ni le fait de savoir ce que Jésus veut que vous fassiez qui vous rendra heureux. C'est seulement lorsque vous faites ce que vous savez qu'il veut que vous fassiez. Il y a beaucoup de faire là-dedans. Qui vous gardera dans cette paix, cette joie qui surpasse tout ce que l'homme peut entendre. On ne parlera pas des récipients. Je vais vous poser une question, quand vous partagerez ça avec vos épouses à la maison, avec vos enfants, concernant, je vais sauter là-dessus parce que c'est secondaire. À quel moment pensez-vous que l'eau a été changée en vin dans les récipients, dans les cruches? À quel moment? C'est intéressant, hein? À quel moment? Quand Jésus l'a dit? Non, parce qu'il n'y avait pas encore rempli d'eau. À quel moment? Les cruches étaient vides, hein? Ce qui est intéressant, là, c'est que les serviteurs, qui étaient peut-être des esclaves, ont obéi parfaitement à ce que Jésus leur a dit. Parce que dans le texte grec, il leur demande de remplir à ras-bord. Bien-aimés, s'il les avait remplis aux trois quarts, quand il aurait versé, là, dans la coupe de vin de l'autre, bien, ça aurait été de la boue. Parce que ces récipients-là, ces cruches-là, elles servaient pour que les gens, c'était de l'eau qu'on prenait pour laver les pieds des gens quand ils rentraient dans un lieu. Et on ne rinçait pas les cruches à l'eau de Javel, hein? On faisait simplement mettre de l'eau fraîche dedans. Alors, bonjour pour les narines, hein? Eh bien, ils ont mis à ras-bord, bien aimé. Et moi, en tant qu'esclave, parce qu'il y avait un prêt à payer, vous imaginez un esclave? Ils ont marché par la foi, ces gars-là, hein? Ils ont marché vraiment par la foi. Avez-vous déjà entendu parler que quelqu'un a changé l'eau en vin? Ils ont marché par la foi, ils ont rempli à ras-bord. Ils nous ont dit de remplir à ras-bord, on ne remplira pas trois quarts, on n'ira pas en bas du collet, on remplit à ras-bord. Ils nous ont demandé à ras-bord. Mais c'est vraiment une démarche de foi, bien aimé, quand on pense à ça. Ils n'étaient pas chrétiens, hein? Ils le font. Et là, ils prennent la... Je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà, une écuelle, voilà. Oh, ça, c'est un gros mot pour un Québécois, c'est écuelle. Oui. Alors, il l'a pris et ils ont versé dans la tasse de l'autre, bien aimé. Mais s'ils n'avaient pas cru, ça aurait été encore de l'eau. Vous vous imaginez ce à quoi il devait s'attendre? Et là, le gars, il goûte. Ah, purée, ça vient, ce vin-là. Oh! Peux-tu avoir un meilleur vin que celui que le Seigneur a fabriqué, bien aimé? Hey! C'est magnifique, ça. C'est magnifique. Bien aimé, un grand nombre de chrétiens ont toujours pensé que l'obéissance vient après la bénédiction, mais c'est plutôt la bénédiction qui vient après l'obéissance. Ça, c'est très, très, très important. Très important. La bénédiction ne vient jamais, jamais avant l'obéissance. Elle vient toujours après. Permettez-moi de vous donner quelques exemples pratiques. On va terminer là-dessus, hein. Quelqu'un m'a dit un jour, lorsque mes factures seront payées, je n'aurai plus de dettes et quand j'aurai une certaine somme dans mon compte bancaire, je commencerai alors à donner pour l'œuvre de Dieu. Mais bien aimé, cette personne, elle fonctionne à l'envers, hein. Elle avait oublié que la bénédiction vient après l'obéissance et que l'obéissance vient avant la bénédiction. Voici un autre exemple. Quelqu'un m'a déjà dit, quand mes problèmes seront réglés, je me serai ressaisi. Je commencerai alors à fréquenter l'Église et je m'impliquerai régulièrement dans un ministère. Eh bien, il avait oublié, cette personne-là, que l'obéissance vient avant la bénédiction, mais pas la bénédiction avant l'obéissance. Un autre qui achetait des billets de loto à chaque semaine m'a dit un jour, et lui, malheureusement, je connaissais bien sa vie. C'est quelqu'un qui ne donnait jamais à l'Église, qui s'en était même vanté. Écoutez ce qu'il me disait un jour. Je ne dirai pas qui, bien sûr. Hein? C'est un homme d'affaires. Il me disait un jour, si je gagne à la loto, et c'était absolument culpabilisant en plus qu'il me dit ça, hein? Parce qu'il savait que je savais qu'il ne donnait rien. Écoutez bien ce qu'il me dit. Je vais le voir, c'était un propriétaire de gros garage. Il me dit, écoute, pasteur, si un jour je gagne à la loto, je te promets que moi, je donne 10% de ce que j'ai gagné à l'Église. Ben, je lui dis qu'il fonctionnait à l'envers. Hein? L'obéissance vient avant la bénédiction. Et je me suis permis de lui dire, parce que j'étais son pasteur et que j'étais au courant, commence déjà à donner ce que tu devrais donner au Seigneur, parce que ça peut arriver que tu ne gagnes jamais la loto. Hein? Donc, ça veut dire que tu ne donneras jamais pour l'œuvre du Seigneur. Hein? En fait, c'était ça. Hein? Et il pensait, lui-là, là, qu'en me disant ça, le Seigneur l'aiderait à trouver le bon numéro, lui, pour qu'il puisse donner à l'Église, quoi. Il y en a qui sont égarés, hein? Bien-aimés, nos problèmes, en terminant, nos problèmes servent à faire en sorte de permettre à Dieu de manifester sa gloire dans vos vies et dans la mienne. Lorsque je me présente devant Dieu et que je lui fais connaître ce dont j'ai besoin, il pourvoira non seulement à ce que j'ai demandé, mais même au-delà, bien-aimés. Vous dites amen à ça? Même au-delà. Est-ce que vous savez que je donne ce que je dois donner à l'Église, à la mesure de mes moyens, et qu'en 37 ans, avec tout ce que j'ai reçu en argent, je suis en dette avec Dieu. Alors qu'il y a des gens qui n'arrêtent pas de travailler comme des cinglés et qui n'arrivent pas. Quand j'ai commencé à la faculté de théologie au mois de septembre, au mois de décembre, au début de décembre, j'ai dit à mon épouse, écoute, si le Seigneur n'intervient pas, on n'arrive pas. J'ai dit, je pourrais pas faire l'autre session en janvier. Le 21 décembre, j'ai reçu un héritage inattendu de 32 259 euros. J'avais une hypothèque de 32 159 euros. Je me suis dit, ah, le Seigneur s'est trompé, j'ai eu 100 euros de plus. 100 euros de plus, non. Les 100 euros, je n'avais besoin pour fermer l'hypothèque chez le notaire. Il y a quelqu'un a vendu un appartement, il avait vendu un appartement il y a quelques années. C'est quelqu'un que je connais, mais que je ne fréquentais pas vraiment, parce qu'il était loin. J'ai reçu une enveloppe de 10 000 euros. Ma fille est allée faire suivre ses cours de médecine à Liège. On n'avait pas les moyens pour tout payer. On a prié. Et mon épouse elle me dit, va donc voir le trésorier s'il ne pourrait pas t'avancer une avance pour qu'on puisse couvrir les frais. Et ce mercredi-là, eh bien, j'ai la réunion de prière, j'ai l'étude biblique, j'ouvre ma mallette, je sors mes affaires, et il y a quelqu'un qui vient me porter avant l'étude une enveloppe de cette grandeur-là, une enveloppe brune. Alors, je prends l'enveloppe et je la mets dans ma mallette, et je donne mon cours, et après le cours, bien, je sors l'enveloppe pour mettre mes livres et tout en place. Et là, je mets la main sur l'enveloppe et j'ai l'impression que c'est du papier journal. Alors, j'ouvre l'enveloppe, je dis que c'est peut-être, je ne sais pas quel article, un article sur les chrétiens, et ainsi de suite. Il y avait 70 billets de 50 euros. Je n'avais demandé à personne, j'avais prié pour ça. Bien-aimé, vous pensez que Dieu va être en dette envers ses enfants? Jamais de la vie, parce que moi, je le dirais, moi, je le crierais. Moi, je dirais, si je crève de faim, c'est à cause du Seigneur. Qu'est-ce que la parole dit? Je n'ai jamais vu un juste. Jamais vu un juste de manquer de quoi que ce soit, bien-aimé. Dieu ne perdra pas sa réputation pour Jacques Hudon, bien-aimé, jamais. Dieu ne perdra jamais sa réputation pour vous, bien-aimé. Il vous aime trop. Et il veut faire à travers vous un modèle de Jésus. En terminant, rappelez-vous ce que ce miracle n'aurait jamais eu lieu s'il n'y avait pas eu ce petit détail qui nous échappe souvent au verset 2. Il est écrit que Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Pour voir Jésus accomplir des miracles dans nos vies comme il l'a accompli aux noces de Cana, il faut aussi l'inviter dans nos vies, bien-aimé. Il faut l'inviter. Il faut qu'il y occupe toute la place. Il faut qu'il se sente à l'aise, bien-aimé. Jésus est à l'aise aux noces de Cana. Et Jésus a pu accomplir ce miracle, bien-aimé. Il faut que nos vies soient claires devant lui. Donc, la meilleure chose qui soit arrivée à ces mariés ce jour de mariage, ce n'est pas seulement le fait qu'ils se sont mariés, mais surtout parce qu'ils ont invité Jésus à participer à ce mariage. C'est la meilleure chose qui leur soit arrivée. Vous savez quoi? Lorsque vous prenez la décision d'inviter Jésus à votre mariage, lorsque vous prenez la décision d'inviter Jésus dans votre cœur, lorsque vous prenez la décision d'inviter Jésus dans votre situation financière, lorsque vous prenez la décision d'inviter Jésus dans votre maison, lorsque vous prenez la décision d'inviter Jésus dans votre travail, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire parce que vous découvrirez qu'il peut prendre tous vos problèmes et les transporter de façon, et les transformer, pardon, de façon à manifester la gloire de Dieu à travers vous, comme ce fut le cas pour les noces de Cana. Frères et sœurs, je vais terminer. Je n'ai pas dit tout ce que j'avais à dire, mais voilà, j'en avais assez entendu. Bien-aimés, je tiens à vous remercier de m'inviter. Je tiens à vous remercier de m'avoir invité. Ça m'a fait du bien ce matin. Je ne sais pas si le message vous a fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien. Je ne sais pas s'il vous a parlé, mais moi, il m'a parlé en baptiste. Hein? Ouais, ça m'a fait du bien. J'avais besoin d'entendre ce message-là ce matin, bien-aimés. J'avais préparé un message, mais Dieu m'a montré qu'il y avait d'autres choses à dire, que j'avais besoin d'entendre. Et je rends gloire à Dieu à ça. Frères et sœurs, Dieu vous aime. Il a payé un prix tellement grand pour vous. Et Dieu veut sauver, non vous, seulement vous, mais vos enfants, les gens de votre famille. Et Paul dit dans Corinthiens qu'après avoir été sauvé, on doit s'atteler à la tâche de partager ce miracle que Dieu a fait dans nos vies. Et si on ne vit pas, je connais un gars qui est drogué, il connaît des versets, il connaît encore plus de versets que moi. Et en 3 jours, en 4 jours souvent, il a dépensé sa pension qui est 1400 euros, juste en drogue et en alcool. Il fait sa réserve de bouteilles de vin là, pour le mois. Il bombarde des versets. Vous savez ce que je lui disais la dernière fois? Parce qu'il est parti en désintox. J'ai dit, mon frère, arrête de dire que tu es chrétien. Tant et aussi longtemps que tu ne vis pas une vie qui est digne d'un chrétien. Parce que tu déshonores la parole. Tu déshonores le Dieu qui t'a sauvé. Il est esclave, il est pris. Il est enchaîné dans les... Il est pris dans les chaînes du diable. Il est élevé dans une famille chrétienne. C'est un alcoolique. C'est un drogué. Là, il est rendu au bout du rouleau, il a 55 ans. Et il sait que la solution est en Jésus, mais il n'est pas né de nouveau, bien-aimé. C'est ça toute la différence. Et il est maintenu captif dans ces chaînes-là. Alors que la liberté, elle se trouve vraiment là. C'est ça qui est important pour nous. Et qu'on puisse revenir au véritable message de l'Évangile. Bien-aimé, Paul n'a jamais prêché pour flatter la chair. Il est clair, il a prêché pour que la chair soit crucifiée, bien-aimé. Et jamais pour flatter la chair. La chair, on n'a pas besoin des messages de l'Évangile à l'eau de rose pour la flatter. On est capable de la flatter nous-mêmes, bien-aimé. Je vais terminer en priant. Hein. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce, te remercier. Te remercier, Seigneur, parce que, bon, j'avais préparé un beau message, Seigneur, un beau, entre guillemets. Et Seigneur, toi, tu as désiré parler à nos cœurs, pas seulement à nos oreilles. Seigneur, tu connais nos besoins. J'ai un sans esprit de jugement et je suis prêt à demander pardon à quiconque aurait pu se sentir jugé par mes paroles ce matin, parce que ce n'était pas là mon intention. Mais je suis un être humain, des fois je suis maladroit dans la façon que je parle. Et Seigneur, je demande pardon à quiconque aurait pu être blessé par mes propos ce matin. Ce que j'ai à cœur, c'est plutôt, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, nous, à travers ta parole, nous transformer, nous changer, afin que nous puissions devenir ressembler à la personne de Jésus, parce que c'est là, Seigneur, ton plus grand désir. Seigneur, lorsque nous regardons ce qui se passe à l'extérieur, nous voulons garder nos yeux fixés là-haut, parce que c'est de là-haut que Jésus revient. Et notre espérance, Seigneur, c'est qu'il revienne le plus rapidement possible, afin de mettre fin à toute cette méchanceté, cette misère, Seigneur, qui est étendue partout sur la surface de la terre. Nous pensons à tous ces enfants qui sont abusés, à ces femmes qui sont abusées, à ces hommes qui sont massacrés. Seigneur, ce n'est pas là, Seigneur, le reflet de ce que tu es. Parce que nous savons que ce monde n'est pas celui que tu as créé, mais plutôt celui que l'homme a voulu avoir sans toi. Et nous te demandons, Seigneur, d'intervenir rapidement, afin que non seulement nous puissions voir ta gloire se manifester, mais que nous puissions passer l'éternité dans ta présence pour régner, et non seulement pour vivre avec toi, mais pour régner aussi avec toi. Bénis cette Église, Seigneur, fortifie-la dans son corps, dans son âme, dans son esprit, afin qu'en toute chose, Seigneur, en pensée, en parole et en action, chacun puisse se glorifier. Que toute la gloire te revienne, et c'est en Jésus que je t'ai prié. Amen.